Les grands titres de ce samedi 11 mars. Les électeurs d'Australie-Occidentale choisissent aujourd'hui qui formera leur gouvernement pour les 4 prochaines années. Des milliers de Sud-Coréens célèbrent la destitution de leur présidente suite à un scandale de corruption. Et en France, Marine Le Pen et Emmanuel Macron mènent dans les intentions de vote. Après plus de 5 semaines de campagne, les électeurs d'Australie-Occidentale choisissent aujourd'hui qui formera leur gouvernement pour les 4 prochaines années. Les sondages indiquent que ça pourrait être la fin pour le premier ministre Colin Barnett et les libéraux après plus de 8 ans au pouvoir. Mais Barnett ne perd pas espoir.
We're just urging voters to think very carefully about your vote. It is not a vote for what happens next week or next month. It's a vote for what is going to happen or not happen over the next 4 years.
Le Parti travailliste a besoin de moins 10% des votes, 10% de plus de votes, en fait, pour gagner 10 sièges de plus pour pouvoir prendre le pouvoir. Le leader travailliste Mark McGowan avoue que ce sera difficile pour son parti de gagner autant de voix, ce qui n'a jamais été fait en Australie-Occidentale. Le leader de l'opposition fédérale, Bill Shorten, est à Perth pour lui donner son support.
The mood in Western Australia is that it's time for change. Colin Barnett's been in too long. Western Australia's been going backwards. People feel optimistic that they'll do better under Mark McGowan.
Selon le dernier sondage News Poll, les travailleurs sont en avance, avec 54% des intentions de vote contre 46% pour les libéraux si on ne regarde que ces deux partis. L'intention de vote pour le parti One Nation a baissé au cours des dernières semaines, étant actuellement autour de 8%. Le journal The Australian rapporte que les Australiens âgés seront encouragés à vendre leur maison pour une habitation plus petite, dans le but de pallier à la crise d'accessibilité au logement. Le gouvernement voudrait encourager les retraités à vendre pour libérer plus de 50 000 maisons par année. Si vous êtes allé à Bali récemment, on vous demande de vérifier si vous avez des symptômes de la rougeole, puisque 2 Australiens sont revenus au pays avec la maladie. Le ministère de la Santé de la Nouvelle-Galles du Sud a dit que les 2 personnes ont voyagé avec Virgin de Denpasar à Brisbane et Sydney la semaine dernière. Passons à l'international maintenant. Des milliers de Sud-Coréens sont descendus célébrer dans les rues de Séoul après que la Cour constitutionnelle ait destitué la présidente Park Geun-hye suite à un scandale de corruption. Les Sud-Coréens demandaient le départ de la présidente depuis plusieurs mois. Une élection présidentielle aura lieu d'ici 60 jours, mais d'ici là, qu'est-ce qui va se passer en Corée du Sud? Les explications de Christophe Pagé.
Très concrètement, Park Geun-hye va devoir quitter la résidence présidentielle, la fameuse Maison Bleue, dont elle n'était sortie qu'une fois ces 3 derniers mois, et où elle a été élevée. Son père était le dictateur militaire Park Chung-hee. Mais l'ex-présidente n'est pas encore partie, sa résidence privée n'est pas prête. Park Geun-hye, en même temps que la présidence, perd son immunité, ce qui ouvre la voie à des poursuites judiciaires pour corruption. Dans ses conclusions, la Cour constitutionnelle affirme qu'elle a contraint des grands groupes à se montrer très généreux envers les fondations de sa conseillère occulte. On parle de 70 millions de dollars. L'élection anticipée doit se dérouler début mai. La Commission électorale nationale a déjà annoncé que les candidats pouvaient déposer leur dossier. Le Premier ministre Kwang Kyo-han, qui occupe les fonctions de la présidente depuis sa mise à l'écart en décembre dernier, pourrait démissionner pour se présenter. Il serait remplacé par le ministre des Finances. Mais selon les sondages, Kwang Kyo-han arriverait loin derrière Moon Jae-in, l'ancien chef du Parti démocratique actuellement dans l'opposition. La courte campagne va en tout cas se dérouler sur fond de ralentissement de la croissance économique et dans un contexte tendu avec la Corée du Nord et la Chine, alors que les États-Unis déploient un système antimissile en Corée du Sud.
C'était Christophe Pagé pour RFI. Les États-Unis ont réaffirmé leur lien avec la Corée du Sud après la destitution de Park Geun-hye. Le secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Sean Spicer, a dit que la Corée du Sud demeurait un allié loyal des États-Unis.
It's an acting president who we have strong relationships with, and we will continue to work with South Korea. They are both an ally and a friend in the region. This is obviously an issue that we continue to keep up with on the developments there. It's a domestic issue in which the United States takes no position in the outcome of that election. It's up to the Korean people and their democratic institutions to determine the future of their country. The United States continues to be a steadfast ally, friend, and partner to the Republic of Korea.
Le secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Sean Spicer. Toujours aux États-Unis, le président Donald Trump a invité le président palestinien Mahmoud Abbas à la Maison-Blanche. Les deux leaders viennent tout juste de se parler au téléphone pour la première fois depuis que Donald Trump a pris le pouvoir. Le porte-parole palestinien Nabil Abou Rdena a dit que les leaders ont eu une importante conversation.
President Abbas committed himself to a peaceful deal with President Trump, and we hope that the Americans and the President himself personally, because what we noticed tonight that President Trump is a very honest man, very courageous man, looking for a deal, a just deal, and we are committed so far. President Abbas will be in the White House very soon, and we will start a new era.
Le porte-parole palestinien Nabil Abou Rdena. Les leaders de l'Union européenne étaient réunis à Bruxelles où ils ont parlé d'une Europe à plusieurs vitesses suite à l'imminent Brexit. Les chefs d'État se sont réunis avant un sommet qui aura lieu à Rome le mois prochain. On écoute Jean-Claude Hunkner, président de la Commission européenne.
I don't like Brexit because
je n'aime pas le Brexit car j'aimerais être dans le même bateau que les Britanniques. J'espère que le jour viendra où les Britanniques remonteront dans le bateau. Mais le Brexit n'est pas la fin de l'Union européenne, ni celle des avancées et de nos ambitions européennes. Moi, j'avais l'impression, à travers des conversations menées avec les collègues et leurs opinions exprimées dans la salle, que le Brexit, au contraire, stimule les autres États membres à poursuivre l'intégration européenne. Malheureusement, ce sera sans les Britanniques, mais j'observe aussi que selon les sondages, l'adhésion des peuples européens au projet de l'intégration se renforce. Donc le Brexit n'est pas la fin, je le regrette, mais nous allons continuer à avancer.
Jean-Claude Hunkner, président de la Commission européenne, doublé par RFI. En France, la campagne électorale en vue de la présidentielle se poursuit. Selon un récent sondage BVA et Salesforce, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont en avant, avec chacun 26 % des intentions de vote au premier tour. Ils sont suivis par François Fillon avec 20 %, Benoît Hamon à 13,5 % et Jean-Luc Mélenchon à 11,5 %. Si Le Pen et Macron se retrouvaient au deuxième tour, c'est Macron qui l'emporterait haut la main avec 61 % des voix. Mais tout n'est pas joué, il reste plusieurs mois avant l'élection et le candidat socialiste Benoît Hamon, qui tire de l'arrière, a profité d'un meeting au Havre pour attaquer ses opposants, dont Marine Le Pen particulièrement.
Qui ne voit pas que demain, elle, qui a voulu mettre au pas les fonctionnaires de police, les juges et la presse, ne créera que du désordre, de la violence? Qui ne voit pas que ce qu'elle est en train de libérer dans le pays, c'est le pire, et notamment chez celles et ceux qu'elle installerait à tous les postes de pouvoir, dans le pouvoir politique, dans l'administration, pour visser la société? Qui ne voit pas que la préférence nationale, demain, ce serait le désordre et la violence? C'est tout sauf la France apaisée.
Le candidat socialiste Benoît Hamon. Et il y a un nouveau candidat, un candidat surprise qui vient de se lancer dans la course à la présidentielle. C'est le candidat de l'Union populaire républicaine, François Asselineau. Aux États-Unis maintenant, des Amérindiens de partout au pays ont manifesté hier à Washington. Ils s'opposent à la construction de l'oléoduc du Dakota du Nord. Sur place, Anne-Marie Capomaccio.
Les plus jeunes poussaient des cris de guerre contre le serpent noir tueur, une ancienne prophétie de la nation Sioux évoquant l'animal qui viendra un jour chercher à les détruire. Les plus âgés étaient immobiles en prière devant le portail de la Maison Blanche.
Nous prions pour l'eau, nous prions pour la protection de notre mère, la terre, et nous prions pour nous-mêmes, car notre vie aussi est sacrée.
La manifestation des nations indiennes s'est déroulée dans une tristesse infinie, sous une pluie glaciale qui n'a pas arrêté les tribus, explique Déborah, des tribus unies jusqu'à la mort.
Si nous mourons, nous mourrons en défendant nos droits. C'est une phrase de l'un de nos plus importants leaders, Sitting Bull.
Ils sont venus du Dakota, d'Utah et des montagnes rocheuses, Sioux, Crow, Chickasaw, Hopi, toutes les nations. Comme Eric et Alice, tout juste arrivés du site de Standing Rock, ils sont pessimistes.
Nous sortons d'un procès perdu. Il n'est pas simplement question des terres indiennes, c'est tout le pays qui est concerné.
Je suis horrifiée par ce qui se passe sous mes yeux. Je veux être une voix et dire ce n'est pas juste.
Le président Trump a-t-il entendu les chants sous ses fenêtres? Aucun message n'est parvenu de la Maison-Blanche. Un fort service d'ordre impassible encadrait cette manifestation pacifique.
Anne-Marie Capomaccio pour RFI. Dans quelques instants, on vous parle de foot et de rugby, mais juste avant, on jette un coup d'œil à la météo. Adélaïde aujourd'hui, un maximum de 33 degrés, Alice Springs 38, à Perth et Cairns c'est 32 degrés, Brisbane 31, Canberra et Melbourne 29, Hobart 20 degrés, Darwin 33 et à Sydney 26 degrés. On rappelle des grands titres de ce samedi 11 mars. Les électeurs d'Australie-Occidentale choisissent aujourd'hui qui formera leur gouvernement pour les 4 prochaines années. Des milliers de Sud-Coréens célèbrent la destitution de leur présidente suite à un scandale de corruption. Et en France, Marine Le Pen et Emmanuel Macron mènent dans les intentions de vote.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench